Dünya dert küpümüzün. 18h en temps universel, 2h. Alima, merci d'écouter RFI.
RFI Matin.
Le journal international avec vous, Martin Guez. Le Pérou veut sortir de l'instabilité politique et s'apprête donc à élire un nouveau président ou une nouvelle présidente.
Qui, quoi qu'il arrive, deviendra le 9e chef d'État du pays sur les 10 dernières années. Ce sera soit Roberto Sanchez, le candidat de la gauche, soit Keiko Fujimori, figure de la droite, fille de l'ancien président autoritaire Alberto Fujimori. Elle se présente pour la 4e fois à l'élection présidentielle. On fera le point sur le dernier jour de campagne avant le second tour avec notre correspondant Martin Chabal. Nous serons aussi au Kosovo où l'on vote là aussi pour des élections législatives, cette fois les 3e en un peu plus d'un an. Et puis la nouvelle tombée au milieu de la nuit fait l'effet d'une petite bombe dans le milieu des télécoms, puisque SFR, géant français du secteur, va être racheté par ses 3 principaux concurrents. On fera le point avec Alexis Bédu. Enfin, les rhinocéros en fin de retour au Zimbabwe après 30 ans d'absence, et les costauds de la balle jaune de retour sur les cours de Roland-Garros. Dernière balle aujourd'hui du grand chelem parisien avec la finale homme entre l'allemand Alexander Zverev et l'italien Flavio Cobolli.
8 semaines après le premier tour, les Péruviens sont donc en fin de retour aux urnes.
Pour le second tour de l'élection présidentielle dans le pays qui aura mis du temps à se dessiner, 27 millions d'électeurs appelés aux urnes dans un pays où le vote est obligatoire, appelés à choisir entre Roberto Sanchez, candidat de la gauche, qualifié de justesse pour ce second tour. Roberto Sanchez rattrapé ce samedi par une affaire de fausses déclarations quant au financement de son parti. Il pourrait être renvoyé prochainement devant un juge, une décision qui ne devrait pas avoir d'incidence sur le scrutin qui le verra faire face à Keiko Fujimori, fille de l'ancien président autoritaire Alberto Fujimori, au régime ultra répressif dans les années 90, condamné dans le pays à 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Figure de la droite, Keiko Fujimori se présente pour la 4e fois à la présidentielle et le scrutin s'annonce serré. À Lima, correspondance de Martin Chabal.
Impossible de prédire qui l'emportera et deviendra président ou présidente du Pérou. Roberto Sanchez, 57 ans, candidat de la gauche rurale, veut miser sur le vote anti-fujimoriste qui a déjà défait Keiko Fujimori au second tour de la présidentielle par 3 fois. Il pointe du doigt son rôle au Congrès où elle a la majorité avec son parti.
Ils ont mis en place des lois pro-criminelles au Congrès. Ils ont exonéré leurs amis d'impôts. Nous allons rétablir l'équilibre des pouvoirs.
Keiko Fujimori, 51 ans, de son côté, veut se présenter comme la candidate de l'ordre, entourée de technocrates de tous bords. Elle parle de Roberto Sanchez comme d'un communiste, responsable du chaos politique depuis la destitution de Pedro Castillo en 2022, dernier président de gauche élu au Pérou.
Nous représentons le progrès. Il représente le retour en arrière. Cette élection va nous permettre de choisir une direction. Si nous voulons avancer ou bien reculer. Si nous voulons l'unité ou rester dans la haine et la vengeance.
Les deux candidats capitalisent sur le rejet de l'autre camp dans une élection très polarisée. Beaucoup de Péruviens iront voter dimanche pour ce qu'ils appellent le mal menor, c'est-à-dire le moins pire. Comme lors de l'élection de 2021, tout pourrait alors se jouer à quelques milliers de voix de différence entre Keiko Fujimori et Roberto Sanchez. Martin Chabal, Lima, RFI.
Le vainqueur de l'élection qui succédera à José María Balcázar et qui deviendra le 9e président du pays en 10 ans, dans ce pays en proie à une très grande instabilité politique.
Une longue attente au Pérou, donc, tandis que les Kosovars, eux, n'en peuvent plus de se rendre aux urnes.
Pour la 3e fois en un peu plus d'un an, les voilà encore une fois appelés à aller voter pour un 3e scrutin législatif, ce qui commence à lasser les quelques 2 millions d'électeurs que compte le pays, car depuis les élections de février 2025, le Parlement est dans l'impasse et n'arrive pas à élire un président pour le pays, un poste honorifique au Kosovo, certes, mais les députés sont profondément divisés quant à sa nomination. Et le Premier ministre social-démocrate Albin Kurti n'arrive pas à obtenir la majorité nécessaire pour former un gouvernement. Lui qui fait encore une fois la course en tête dans les sondages, il espère cette fois-ci obtenir un socle plus large dans ce petit pays des Balkans. Julien Chavanne.
Retour à la case départ pour les électeurs kosovars. Même si le parti au pouvoir devrait l'emporter, l'inconnu, c'est l'ampleur de cette victoire. Albin Kurti fait le pari qu'il pourrait remporter plus de 60% des voix. Scénario idéal qui lui donnerait les mains libres pour la présidence du Parlement et celle de l'État. Ces deux postes sont au cœur de la crise politique depuis 18 mois. Les partis n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord. Et plus ça dure, plus les chances de rejoindre l'Union européenne s'éloignent. Bruxelles attend toujours que le pays mette en œuvre les réformes de demandés. La population surtout s'impatiente, alors que le climat politique reste tendu. L'opposition a accusé le Premier ministre de tentative d'achat de vote. Albin Kurti a offert plus de 100 millions d'euros de primes à la population face à la hausse des prix du carburant et 2 millions d'euros de subventions pour faciliter le retour par avion de la diaspora le jour du vote.
Et un dernier scrutin législatif, encore une fois ce dimanche en Arménie, 19 partis en lice, mais deux formations qui se détachent, celle du pro-russe Samuel Karapetian et celle du pro-européen et Premier ministre sortant Nikol Pachinian. Un scrutin marqué par de nombreuses tentatives d'ingérence et d'innombrables fausses informations générées depuis la Russie, qui tente de garder ce petit pays du Caucase dans son giron, alors que Nikol Pachinian, arrivé au pouvoir en 2018, aimerait se rapprocher des États-Unis et de l'Union européenne, une élection cruciale à laquelle sont appelés à participer plus de 2,5 millions d'habitants. Sélection sur laquelle nous reviendrons tout au long de la journée sur RFI.
10h06 à Beyrouth, la guerre entre Israël et le Hezbollah ne faiblit pas.
L'État hébreu qui dit avoir visé 150 positions du mouvement chiite pro-iranien dans le sud du Liban ces 48 dernières heures. Des frappes israéliennes qui ont tué deux femmes et blessé 22 personnes près de Saïda. Trois militaires libanais ont aussi été tués près de Nabatieh. Deux soldats israéliens sont morts dans des frappes du Hezbollah, toujours dans le sud du Liban et puis toujours au Moyen-Orient. L'armée américaine a annoncé avoir abattu deux drones iraniens alors que la guerre entre l'Iran et les États-Unis est entrée dans son 100e jour. Elle dure depuis plus de 4 ans. La guerre en Ukraine se poursuit. Des frappes russes ont fait deux morts cette nuit dans le centre et dans l'est du pays. Alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit aujourd'hui rencontrer le président français Emmanuel Macron, le premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz.
Dans l'actualité économique à présent, c'est un petit séisme dans le secteur des opérateurs téléphoniques en France. Ils étaient 4 géants, ils ne seront bientôt plus que 3.
Et oui, puisque SFR est à vendre et a trouvé preneur. Altice France va finalement vendre sa filiale à ses 3 principaux concurrents, à savoir Bouygues Télécom, Orange et Iliad, qui est propriétaire de Free. Bonjour Alexis Bédu.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
C'est l'une des opérations les plus importantes de l'histoire du secteur, souligne les 3 repreneurs. Une opération à plus de 20 milliards d'euros. Un terrain d'entente a donc été trouvé.
Oui, si cela se fait vraiment, il s'agira d'une reconfiguration inédite du secteur des télécoms en France, avec un retour donc à 3 opérateurs. Dans l'accord trouvé, c'est Bouygues qui récupère la plus grosse part du gâteau avec la moitié du chiffre d'affaires, les 2 autres se partageant le reste. La répartition des actifs et donc notamment des clients de SFR est également actée. Alors Bouygues décrocherait les clients professionnels ainsi qu'une partie des activités grand public, soit près de 6 millions de clients. Free hériterait des quelques 6 millions de clients de l'offre low cost de SFR, tandis qu'Orange se verrait attribuer environ 5 millions de clients.
Et du côté de l'emploi, Alexis, on s'inquiète, y aura-t-il des licenciements chez SFR ?
Réponse des futurs acheteurs aux inquiétudes des syndicats de salariés, ils s'engagent à ce que les 8000 emplois soient conservés au moins jusqu'à 2029. L'autre question, y aura-t-il des conséquences sur les prix, cela fait un concurrent de moins avalé par les 3 autres et donc une hausse tarifaire est plus facile à mettre en œuvre. Cette annonce doit d'ailleurs désormais faire l'objet d'un examen approfondi par les autorités de la concurrence, rappelle ce matin le ministre de l'économie. Les 3 acheteurs restent donc prudents et ils l'écrivent noir sur blanc. À ce stade, il n'y a aucune certitude que cette opération soit réellement réalisée.
Merci beaucoup Alexis Bédu du service économie de RFI en direct dans nos studios.
L'actualité africaine à présent, Martin, marquée par l'arrivée de la commissaire européenne à la coopération internationale à Bounia dans l'est de la RDC.
Adjal Harpib, attendu tout à l'heure, une visite express dans la capitale provinciale de l'Ituri, foyer de l'épidémie d'Ebola qui sévit depuis la mi-mai dans la région. C'est tout près de Bounia qu'avait notamment contracté la maladie un médecin américain hospitalisé depuis en Allemagne et qui vient tout juste de quitter l'hôpital de Berlin. Il est en bonne santé. L'Union européenne s'engage dans la riposte contre Ebola en RDC avec une enveloppe de 15 millions d'euros d'aide humanitaire destinée aussi à l'Ouganda et aux pays de la région. Et puis l'actualité sur le continent, c'est aussi ce retour au Zimbabwe, celui du rhinocéros noir, espèce emblématique du pays. S'ils n'ont plus de cornes pour éviter tout braconnage, ils ont tout de même pu être réintroduits la semaine passée, une 30aine d'années après l'évacuation des rhinocéros du pays. Simon Rosé.
Ils ne sont que 17, mais ce sont les premiers à fouler à nouveau le sol du parc de Matusadona depuis le début des années 90. Les autorités zimbabwéennes ont en effet entamé une opération inédite de réintroduction du rhinocéros noir 30 ans après leur évacuation face à la pression du braconnage. À l'époque, ces animaux étaient pourchassés et tués pour leurs cornes. Il n'en restait plus que 16 dans tout le parc. Ce ne sont pas eux qui reviennent aujourd'hui, mais leurs enfants, à la faveur d'une situation qui s'est améliorée depuis. De nouvelles technologies comme des drones sont désormais utilisées pour les protéger. et leurs cornes ont été préalablement coupées par précaution. Ils sont également dotés de balises de suivi. S'il se passe bien, ce retour ne constituera qu'une première étape d'une plus vaste opération de réintroduction qui se poursuivra l'an prochain avec l'arrivée de 20 autres pachydermes dans le parc de Matusadona, si l'espèce est considérée.
Listen to this. C'était hier ou quelques temps avant. L'avenir c'était hier, 27 OIEB. Je savais pas où je les mettais. Yep. Dans les flaques ou dans les plats, soit que de m'étayer. Autant de foot au plateau que de basket essayer. Émerveillé d'un rien, tu pouvais facilement payer ma tête. Depuis de trois mandats, les quelques balles est empilées. Dans la mélancolie, j'étale le souvenir tant qu'il est net. Entre un ballon, mes cahiers comme des graviers dans les sandales. 10 balais, premier texte et là je m'emballe. J'ai trouvé ma passion à 10 ans d'âge mental. 98, 10 ou fait l'action. Les Vince qui fait scandale. Au journal de 20h, j'apprends ce que c'est qu'une fellation. Tu sais, Billy, quand la vie de s'abatte, personne t'avertit. Et le premier coup de patte, c'est souvent une fille qui le donne. Ouais, madame, c'est même pas le rap qui m'a perverti. Il a suffi d'une paire de Nike et de Bill Clinton.
Mes chaussures, y'a pas de merde, qu'on pas trace dans ton milieu.
Black life and fuse, whether it's sneakers or shoes.
La joie de vivre, le plaisir devient une hérésie.
Une vie d'adulte de pourri.
37 au pas, d'avenir au pack, j'écoute le Saiyan et Tupac. Dente devant, tête de rat, dans ma chaîne sectorale. C'est des du 15 mai à l'Olympia, je le connais par cœur. Un peu après, 5ème as, Solar pleure et moi aussi. Quand un décédé d'une tumeur, à 11 piges et quelques heures, je sais que la vie est une putain. Un jour tu ris, un jour tu pleures, un jour tu vis, un jour tu meurs. Sniper résume mes premiers sentiments humains à l'enterrement. Cassé, les mots cassés me font mal au cœur, la gorge serrée. J'écoute les quelques mots placés, je fonds en larmes et je prends 10 ans de maturité en 3 quarts d'heure. Là, c'est les coups de pompe et de ces pompes qu'il faut lasser. Et puis un jour, je me rends compte que Cendrillon met des converses. On parle de ces choses, celles qui sont trop dures à confier. Au fil des conversations et des abcès qu'on perce, je me dis qu'en marine, j'ai trouvé chaussures. À mon pied.
Mes chaussures, y'a pas de merde, qu'on pas trace dans ton milieu.
Black life and fuse, whether it's sneakers or shoes.
La joie de vivre, le plaisir devient une hérésie.
Une vie d'adulte de pourri.
Mais bon, la vie, c'est un bon 47 en travers de la gueule. Et quand la mort agit, t'as envie d'y mettre un terme, disant qu'elle la partageait. Du coup, tu te sens seul, puisque l'accident de voiture mène à l'hémorragie interne. Drapeau en berne, l'ombre de quelques balais en deuil. Mais t'as pris de la bouteille, au sens propre et figuré. Elle est plus là et tu te mets à parler aux feuilles. Par dépit, tu restes au seuil d'une partition fissurée. Tu sais, tu finiras par guérir l'âme et ses jointures. En attendant qu'une autre jolie dame te ceinture, il te reste plus qu'à travailler, boire et oublier, user tes semelles jusqu'à devenir une pointure. Et quand l'aube d'une longue nuit se profile, profite sans nos entorses, on ne forge pas de démarche. Les marches de la vie souvent défilent trop vite, cogite pas, redémarre en mettant un pied devant l'autre. Un pied devant l'autre. J'ai trouvé chaussures à mon pied. Tu ris, un jour tu pleures, un jour tu vis, un jour tu meurs.
Mes chaussures, y'a pas de merde, qu'on pas trace dans ton milieu.
Black life and fuse, whether it's sneakers or shoes.
La joie de vivre, le plaisir devient une hérésie.
Une vie d'adulte de pourri.
I'm on a daily train, but I'm thinking I cannot go further. It's always been the same. This close to change, the conversation can't go deeper. You don't have to pretend. We need to excel where the tropical sights, primitive flavors and lights. Running with strangers away from the streets of downtown, falling deep into their traps. Are we on the right track? Are we on the right track? Are we on the right track? Are we on the right track?
Came. We need to exit.